Inauguration du centre de coworking Regus à Clermont-Ferrand, jeudi 11 mai 2023 sur Cowork La Radio et Radio Imo.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici à Clermont, le moins qu'on puisse dire c'est que le soleil ne nous a pas attendu, c'est pas grave, la ville est magnifique quand même. On est ici parmi l'ensemble des volcans d'Auvergne, on peut dire les choses comme ça, ici à Clermont-Ferrand pour inaugurer effectivement Regus qui s'installe dans cette zone d'activité dont on va parler. On va titrer cette première table ronde, on est ensemble pendant 1h30 avec trois émissions que vous pourrez réécouter comme d'habitude sur les plateformes de podcast qui vont bien. Le bassin d'activité économique et son développement, on va parler un petit peu de politique locale, de politique d'urbanisation aussi, mais aussi de comment on peut réenchanter, revitaliser des zones d'activité. Pour en parler, on a réuni un parterre d'invités qui représente assez bien le territoire. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il nous avait déjà fait l'honneur de venir sur le plateau des Clés de la Ville avec mon confrère Olivier Marin. Il est maire adjoint en charge de l'urbanisme. Pour dire que l'urbanisme et le logement, ça vous parle aussi. C'est Grégory Bernard, adjoint à l'urbanisme. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Ben, je suis ravi d'être avec vous. Merci d'avoir pris le temps de passer sur notre antenne. Un acteur réputé dans le territoire, un grand monsieur de l'immobilier qui est architecte de formation. Et croyez-moi, ça aide quand on fait de la promotion immobilière, par exemple. Il est sur notre plateau, patron d'Épure Promotion. C'est Éric Cornet qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Je suis ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Un acteur majeur aussi de l'immobilier d'entreprise en France, c'est le groupe CBRE, dignement représenté par Olivier Chapelle. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Olivier, vous êtes directeur pour CBRE de l'Atrium ici à Clermont-Ferrand.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. Alors, on est ensemble pendant une trentaine de minutes, messieurs. On va faire le pitch. Hein. C'est l'usage à la radio. Clermont-Ferrand est une ville qui se transfigure littéralement, on peut le dire, avec des projets d'urbanisme qui sont conséquents sur un territoire qui est particulier, qui est singulier. Est-ce que vous pourriez, Grégory ou Bernard, nous dire un petit peu quelques mots sur votre territoire, ses spécificités, et surtout nous dire où nous nous trouverons là actuellement?
Très bien. Alors d'abord, vous trouvez dans la capitale des Arvernes. Clermont, c'est la grande ville du Massif central, entre Lyon et Bordeaux, entre Orléans et Montpellier. Il n'y a pas d'autres grandes villes. Et donc, on est la métropole du Massif central, avec des fonctions métropolitaines pour l'ensemble de ce territoire, et Clermont a cette particularité d'ailleurs d'échapper à l'ère d'influence des autres métropoles. Donc Clermont est une petite métropole, mais qui joue un rôle pour un grand territoire. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et ensuite, elle a une histoire longue. Elle était déjà la capitale des Arvernes il y a 2000 ans. Et donc, cette histoire continue. La ville, elle se réinvente, elle se reconstruit sur elle-même. Et ici, aujourd'hui, c'est le symbole un peu de ça. On se trouve dans des locaux d'une nouvelle génération, avec l'arrivée de Regus sur la zone de la Part-Dieu. Dans un secteur qui s'est développé, alors je dirais dans les années 90 essentiellement, hein, 80-90, autour d'un parc technologique, la Part-Dieu, avec des règles d'urbanisme de l'époque qui faisaient qu'on était dans un quartier entièrement monofonctionnel, où il n'y avait finalement que des bureaux, pas de commerce, pas de services, pas d'habitat, pas d'autres fonctions récréatives, etc. Très peu de densité. Quand je dis très peu de densité, c'est que l'essentiel est donc très étalé. L'essentiel des bâtiments, bah, ils faisaient un rez-de-chaussée, des fois un étage, deux étages. C'était voilà. Et donc, c'était des coefficients d'emprise qui faisaient qu'on avait une très faible densité, alors même que ce quartier est desservi par le tramway depuis maintenant plus de 15 ans, par le train, puisqu'on a une gare sur la Part-Dieu, et qu'il est évidemment aussi très accessible et de plus en plus par les pistes cyclables. Je suis moi-même venu en vélo. Et donc, c'est complètement intégré, en fait, à la métropole. Ce qu'on a décidé de faire, il y a maintenant... c'était en 2016, à travers le plan local d'urbanisme, c'est de mettre fin à ces vieilles règles d'urbanisme qui correspondent à l'esprit d'une époque, hein, construire des technopôles, penser qu'on va mettre des gens qui vont faire tous la même chose, etc. Ce qui faisait que c'était un quartier qui était complètement mort le soir, complètement mort le week-end, à part les lapins, il n'y avait pas d'autres êtres vivants. Et donc, aujourd'hui, on est sur une intensification, sur une diversification. Et on est sur une des premières opérations très significatives de ça, oui. Et moi je suis très heureux de l'avoir sortir de terre, parce qu'en fait elle n'aurait pas été possible cette opération avec nos anciennes règles d'urbanisme.
Et alors ça veut dire que vous avez révisé effectivement ces règles d'urbanisme et que vous êtes finalement adapté au monde contemporain, c'est-à-dire mixité fonctionnelle, mixité d'usage, dans lequel finalement est-ce qu'on a l'impression que ces villes vont finalement se revitaliser. Alors, je prends Clermont-Ferrand en tant qu'exemple, mais on a aussi d'autres exemples. Alors justement, Eric, vous êtes architecte, donc vous avez déjà un avantage, c'est que vous avez...
Juste de formation, oui. Pas de diplôme.
Oui, oui, enfin, quand même. Vous savez lire un plan, j'allais dire. Bon, je caricature un peu. Mais est-ce qu'on n'est pas là aussi dans l'usage contemporain, quand on voit le bassin d'activité économique, du développement des villes, aujourd'hui, sur véritablement ce que disait Grégory Bernard, c'est cette mixité, cette densité qui devient maintenant une nécessité sur laquelle il n'y a plus de débat. Alors, je ne vais pas revenir une énième fois sur le ZAN, hein, sur le zéro artificiel. Artificialisation nette. L'idée, c'est de ne plus prendre d'embattement sur les terres arables pour justement essayer de densifier. Est-ce que la densification, c'est aussi un pari pour accueillir aussi une démographie qui est pléthorique, qui est de très en plus importante et qu'une demande et une offre qui demande aujourd'hui à être satisfaite?
L'avantage de cette densification qu'il y a eu avec le PLU, en fait, c'est qu'on a réutilisé des zones qui étaient déjà viabilisées avec des routes, des réseaux, sans dépenser d'argent public pour faire de la viabilité, en emmenant des surfaces complémentaires de logements. Donc on a sorti deux blocs de logements sur la zone qui font plus de 60 logements chacun. Chose qui avant était inimaginable. Personne voulait des logements dans cette zone. Et aujourd'hui, ça permet de mettre de l'activité et des gens en dehors des périodes qui étaient utilisées pour les bureaux. Plus, je dirais, toute cette zone était dépourvue de services et d'aide à la personne. Donc pareil, on a créé une partie centrale de la Part-Dieu, plus ici, en dessous de Régus, salle de sport, restaurant, des jeux à l'intérieur des bâtiments pour amener une activité qui est encore à l'inverse de l'activité des bureaux.
Je comprends.
Voilà. Et c'est vrai que cette zone est très bien desservie par tout ce qui est service public, donc ça permet de...
Est-ce que les usagers, et la question est précise, acceptent la verticalité, la hauteur?
Alors dans une zone comme la Part-Dieu, oui, puisque aujourd'hui, ça permet de réduire les coûts des bâtiments et de l'impact foncier en montant des bâtiments un peu hauts. Ça permet, sur un bâtiment qui était en face de la gare de la Part-Dieu, on est revenu créer deux niveaux pour faire un bâtiment de 3 500 m² pour la MSA à l'époque. Donc ce qui a permis, avec le même tènement foncier, en fait, d'amener 100 personnes de plus en activité sur le terrain.
Bien sûr. Pour le logement, comme pour l'activité tertiaire, Grégory Bernard, la verticalité, c'est une nécessité. On est d'accord là-dessus.
On est d'accord, mais c'est vrai qu'elle n'est pas possible partout. Oui. Et il y a des endroits où elle dérange. Et il y a d'autres endroits où son acceptabilité sociale, si vous voulez, ne fait pas question.
Mais l'acceptabilité est un phénomène, la non-acceptabilité est un phénomène qui touche toutes les grandes métropoles aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez cette étoile?
Oui, je vous le confirme. C'est ce qui est le plus difficile quand on est adjoint à l'urbanisme dans une ville, c'est qu'on
signe des
permis de construire et donc on transforme le cadre de vie des gens. Et les gens ont du mal à supporter qu'à côté de chez eux, ce qu'ils ont toujours vu se change, disparaît, se transforme, etc. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la vie normale d'une grande ville et c'est la difficulté de l'exercice. Mais il y a des tissus qu'on doit protéger. Il y a des endroits où il ne faut pas trop densifier.
Donnez-moi un exemple, par exemple, une illustration que vous connaissez.
Parce que nos villes, elles sont sensibles au changement climatique. Elles sont fragiles de ce point de vue-là. En 2050, si on veut que la ville de Clermont soit habitable, il faut que quand il y a des espaces verts, des arbres qui existent, on arrive à mieux les protéger qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc il y a des endroits où on peut aller chercher un peu de verticalité, mais par exemple, on ne va pas arracher les beaux arbres qui sont là, on va essayer de préserver les cœurs d'îlots, etc. Ça, c'est tout l'enjeu du PLU de la métropole qu'on est en train d'écrire aujourd'hui avec l'ensemble des maires de la métropole. Par contre, une zone comme la Part-Dieu ici, mais là, en fait, on n'a pas du tout ce sujet-là.
Mais oui.
On part de très, très loin. Et en fait, on ne gêne personne. C'est un peu ce que tu disais, Eric. C'est-à-dire que quelque part, on est ici sur un territoire où il y a un gisement à travers cette densification qui est en fait assez évident et qu'on doit aller chercher. Et en fait, on s'aperçoit qu'en termes d'artificialisation, on reste assez efficace parce qu'on a des règles de végétalisation qui font qu'on garde de la pleine terre. On va planter des nouveaux arbres dans tous ces permis de construire que la ville accorde, permettent de planter des nouveaux arbres. Et donc, ici, en 2050, ça ne sera pas invivable et ça ne sera pas moins bien qu'aujourd'hui. En fait, au contraire, je pense qu'on aura réussi une transformation et une optimisation qu'il faut toujours aussi replacer à grande échelle. Et oui, on doit préserver d'abord les terres agricoles, les espaces naturels et les paysages.
L'activité, Olivier Chapelle, l'activité économique, alors vous avez une particularité chez CBRE, vous travaillez beaucoup sur l'économie tertiaire, mais justement, est-ce qu'elle est par nature, quand on prend d'autres métropoles, là on est à un carrefour géographique extrêmement important, vous l'avez rappelé très justement, Grégory Bernard, est-ce qu'on est sur un marché, entre guillemets, dynamique ?
Alors effectivement, Clermont a connu depuis quelques années un grand dynamisme en termes économiques. On le voit même au niveau de la construction et du nombre de grues qui sont à Clermont. La demande placée en bureau à Clermont, elle est aux environs de 25 000 m² par an. Il y a des années où elle est beaucoup plus forte parce qu'il y a des sièges qui se construisent et qui sont livrés. Donc il y a récemment le siège d'Enedis, le futur siège d'Enedis qui est en cours de construction. Donc forcément, ça fait exploser la demande placée. Mais c'est une aujourd'hui, toutes ces constructions de bâtiments neufs répondent complètement à une demande parce qu'on avait un parc vieillissant. Qui répondait plus aux normes énergétiques et qui répond pas non plus au mode de fonctionnement actuel, genre open space, etc.
Qu'est-ce qu'on en fait de ces actifs-là ? Est-ce qu'on les déconstruit ? Est-ce qu'on les transforme ? Est-ce qu'on les rend réversibles ? Qu'est-ce qu'on en fait ?
Ben, généralement, on les transforme et on les surélève quand la structure le peut. Eric est le professionnel de tout ça. La politique qui est voulue par notamment Eric, c'est effectivement de ne pas forcément jeter tout à la poubelle, mais de reconstruire, de retraiter et de rehausser dès qu'on peut rehausser.
Question sur l'activité justement elle-même. Est-ce qu'on a des activités plutôt tertiaires, services, plutôt industrielles ? Comment se configure finalement l'activité économique du bassin ?
Elle est plutôt bien répartie. Ça vient également de la politique d'essaimage que Michelin avait pratiquée dans les années 80, puisque Michelin s'est recentré sur son métier de base en externalisant tous les services qui étaient faits en interne. Donc ça a eu pour effet de créer nombre de PME. Et finalement, ben aujourd'hui, on a un tissu industriel très correct avec des PMI qui sont performantes. On a des belles réussites dans notre secteur donc de PMI, de beaux exemples. On a effectivement des zones tertiaires qui sont plutôt bien remplies aujourd'hui et qui fonctionnent bien avec des demandes qui ne sont pas toujours satisfaites parce que les produits n'existent pas, mais tout ce qui est en train d'être fait va combler ce manque. Et on a plutôt aussi un commerce assez dynamique, notamment en centre-ville, où effectivement, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de murs commerciaux qui sont libres.
Donc on a un taux de vacances très faible. Alors, ça, c'est un, alors, je vous le dis parce qu'on a la chance, nous, de faire toutes les villes de France. Vous avez beaucoup de chance puisque effectivement vous avez un taux de vacances assez faible, donc une activité intramuros au niveau commerce qui est intéressante. La question que je voulais vous poser aussi, Olivier, c'est au niveau des activités économiques par elles-mêmes, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce type de ville, ces configurations-là, présentent les plus belles opportunités dans le territoire français, dans la métropole? C'est ce que je pense, moi. Je pense que vous avez des relais qui transfigurent complètement la ville. Quels seraient, selon vous, si vous avez une approche globale, les activités, les économies, peut-être l'innovation, la tech, qu'est-ce qui se dégage le plus? Vous avez parlé, évoqué des PMI un peu totémiques, hein, qui ont de belles réussites. Comment on pourrait qualifier un petit peu ce qui ressort le plus de ce bassin d'activité ?
Ces dernières années, les industries qui sont arrivées donc, grâce à un développement externe sont les industries du luxe. On a vu arriver Vuitton à Saya, Hermès à Rion, qui sont dans le giron géographique de Clermont, et récemment Van Cleef & Arpels à Thiers. Donc on a réussi à capter, la ville a réussi à capter donc des opportunités et à reconvertir justement des immobiliers anciens qui souvent avaient un peu de cachet. Donc des immobiliers anciens pour installer de l'industrie du luxe.
On parle beaucoup aujourd'hui de coworking. on parle de télétravail, de tiers-lieu. On voit bien qu'il y a une réflexion sur l'usage de l'espace, la maîtrise de l'espace, par rapport au niveau de bien-être, de performance et autres. Ce sont des développements anthropologiques modernes qui avaient déjà cours bien avant le Covid. Hein, pour être très clair, c'est pas le Covid qui a converti les masses, ça a certainement accéléré ou été un catalyseur, mais il y avait déjà un mouvement. Cette injonction de cette génération des trentenaires, je le suis plus depuis un moment, non. On va dire les choses comme ça. Cette injonction de bien vivre, bon, ça vous maîtrisez bien le sujet, chez CBRE, vous travaillez beaucoup sur ces questions-là. D'ailleurs, on vous doit beaucoup d'analyses sur le sujet. Je vais d'abord m'adresser à vous, Eric. C'est plus qu'une incantation, on est d'accord, hein, c'est un vrai mouvement. Hein, vous êtes d'accord là-dessus. Hein,
tout le monde.
La perspective, l'espace, le fait d'avoir des lieux jovial, agréable, où on se sent bien.
Toutes tes demandes de bureau aujourd'hui sont en partie axées là-dessus et il y a beaucoup dans les aménagements de zones comme ça, oui.
D'accord. Alors quand vous voyez cet immeuble qui est magnifique, superbe, avec, alors moi je vois la vue, c'est les volcans de Vergne hein, qu'on voit en face. Hein.
Tout à fait.
Bon, on vous dira les amis.
Mondial de l'humanité.
Ah oui, absolument. Mais je vous le dis, c'est vraiment. Enfin, c'est un écrin. Vous savez, j'ai l'impression d'être dans un écrin.
C'est aussi pour ça que les gens aiment bien la verticalité, parce que quand on sort de la part avec des bâtiments un peu hauts, on profite de cette vue.
Mais bien sûr. Alors justement, quand vous voyez cet immeuble avec Regus, qui est une marque totémique, hein, qui est une marque emblématique, pour quand même rappeler que Regus fait partie du groupe IWG, comme vous le savez, qui est le leader mondial des espaces partagés, avec une empreinte, pour ça, je sais pas, vous le savez bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que promoteur, quand vous voyez des marques qui ont ce poids aujourd'hui, qui sont représentées partout dans le monde?
C'est une très bonne chose qui vient à Clermont-Ferrand, déjà.
Oui.
Parce que ça marque un intérêt à notre région, puisque nous, on est d'ici.
Ouais, ça envoie un signal hyper fort.
Très positif. Hein,
sur le business, sur les
très
affaires.
Très positif sur le business, très positif sur les gens qui vont venir autour, puisque une marque comme ça qui vient sur... en plus, je suis porteur de l'opération ici, donc une marque qui vient dans une opération telle que Regus, ça amène un peu une confiance pour les autres utilisateurs, une marque d'intérêt qui est quand même majeure pour un projet immobilier.
Justement, Olivier, on va parler des faits usages, des faits usages d'entreprise. C'est important. Aujourd'hui, vous êtes d'accord, Grégory, que vous aimez que les entreprises investissent sur votre région, que les gens s'installent, qu'ils y vivent, bien évidemment, et ça participe à la richesse et à la croissance de la ville. Alors, vous, Olivier, vous maîtrisez bien le sujet. Ces sujets d'appréhension de l'espace, on ne raisonne plus en mètres carrés aujourd'hui. Hein. On raisonne en post-travail, de bien-être. On a des réflexions qui sont très différentes. Ça va durer, on le sait. C'est un vrai changement. Comment, de votre point de vue, dans un territoire comme celui-ci, vous le vivez au quotidien? Est-ce qu'il y a des spécificités? On a parlé, par exemple, des volcans d'Auvergne. On a parlé des spécificités du territoire, des problématiques climatiques. On l'a rappelé Grégory Bernard. Est-ce que tout ça a un impact? Comment vous le faites? Vous le faites vivre dans votre territoire?
Alors, bien sûr que ça a un impact. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément les produits qui correspondent, hein, parce qu'on est en train de connaître une mutation. Même si sur une ville comme Clermont, on n'a pas eu de bouleversement dû au télétravail, parce que les entrepreneurs n'ont pas changé forcément de locaux, parce qu'il y avait un peu moins de monde dans leurs locaux, et que les niveaux de loyer à Clermont ne sont pas ceux de Lyon ou de Paris, et que les économies sont pas significatives, et que les temps de transport sont beaucoup moins importants donc à Clermont qu'à Lyon ou à Paris. Donc ça c'est un premier point. Mais aujourd'hui, effectivement, on sent bien que lorsqu'on a des recherches, on sent bien que l'ensemble des chefs d'entreprise recherchent des locaux qui répondent aux aspirations de leurs salariés.
Donc, question justement, ce territoire qui est un territoire qui... Pardon.
Je voulais juste compléter en fait. Je pense que ça se joue sur les locaux eux-mêmes. Ça se joue aussi sur l'environnement. Et en fait, ce dont je me rends compte moi, c'est que ce qui redevient attractif, c'est l'urbanité, c'est la ville elle-même. C'est-à-dire que
de revenir dans les centres-villes.
Oui. Ça, vous voulez dire, d'accord. Revenir dans des centres-villes ou dans des zones comme ici, qui sont très bien desservies par, justement, du tram, du vélo, etc. Mmh. En fait, ce que les gens cherchent, ça n'est plus seulement d'avoir un espace de travail agréable. c'est en fait une recherche justement qui, d'un point de vue anthropologique, est beaucoup plus holistique. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent à la fois un cadre de vie, par exemple des services de type les services d'enfance, par exemple, jouent un grand rôle dans l'attractivité des territoires, la question culturelle, la question sportive. Donc ici, vous êtes sur un territoire qui est candidat pour être, qui est finaliste pour être capitale européenne de la culture pour la prochaine ville française donc à être candidate sera en 2028, et donc on est en concurrence avec trois autres grandes villes. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est possible d'être finaliste, ce qui est déjà une victoire en soi, hein, parce qu'on a déjà un niveau d'équipement culturel, des festivals, etc., une vie culturelle clermontoise, des acteurs qui font que c'est attractif pour... voilà, des étudiants, des cadres, des chercheurs et n'importe quel salarié qui a envie ou des entrepreneurs d'accéder à ça. Sur le sport, c'est un peu la même chose. Ici, vous avez une équipe de foot en Ligue 1 et une équipe de rugby en Top 14. Et je crois qu'il y a trois villes en France qui ont ça.
C'est vrai.
Plus que ça. Non, je dis une bêtise.
Non,
il n'y en a pas beaucoup qui ont les deux, en fait.
Ouais.
Et donc,
il y a cinq grandes villes qui sont effectivement sur ce thème.
Ça, c'est mon côté marseillais. C'est du cadre de vie. Et c'est comme les attentes sur la nature en ville, par exemple. Mm-hmm. C'est de même nature aussi. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils réfléchissent plus que sur lui-même.
Grégory, vous n'avez pas l'impression aussi... Alors, de l'extérieur, moi je ne connais pas très bien Clermont-Ferrand, c'est la première fois que je viens ici. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'hériter d'un passé qui parfois altère la réelle image que veut dégager Clermont-Ferrand? Vous savez, ce côté, dire les choses, hyper industriel, la ville qui n'est pas super jolie,
en fait, ça,
qui est un peu grise, etc.
Ça, si vous voulez.
Est-ce que vous en pâtissez ou pas?
En fait, alors d'abord, je pense qu'on n'en pâtit plus. Je pense que ça, c'est loin derrière nous. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est symptomatique, et là-dessus, on pourrait multiplier les témoignages, parce que je pense que tous, on en a autour de nous, et on en a tous entendu ça depuis très longtemps, c'est qu'en fait, ça, c'est une image vue de loin, pour les gens qui, comme vous, n'ont jamais mis les pieds ici. Mais une fois que les gens sont là, ils ne veulent pas partir. Parce qu'en fait, ce qu'ils trouvent là, extrêmement précieux. Justement, le fait de prendre sa voiture et dans un quart d'heure, on est dans la chaîne des Puits. C'est juste incroyable. Vous êtes dans une métropole au pied d'une chaîne de volcans avec des espaces naturels. On est entre deux parcs naturels.
Oui, c'est vrai.
Donc ça, en fait, tout le monde, toutes les métropoles ne l'offrent pas. Ça correspond, si vous voulez, à des attentes profondes de plein de gens. Et donc, très souvent, et c'est si vous discutez avec les gens de chez Michelin, par exemple, c'est ce qu'ils vous diraient, parce que eux, c'est une entreprise donc multinationale, hein, donc ils ont des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, et les gens peuvent avoir une image un peu déformée au départ, peuvent se dire, clairement, j'espère que j'y resterai pas trop longtemps dans ma carrière, etc., et finalement, ils veulent pas partir. C'est assez symptomatique quand même.
Ça me rappelle, vous savez, les villes du Nord, on dit qu'on pleure deux fois. On pleure quand on arrive, mais on pleure quand on repart parce qu'on veut plus repartir.
C'est pareil. Ouais. C'est exactement pareil. Et du coup, c'est surtout, en fait, c'était déjà des fausses images, je pense, il y a 10-20 ans. Mais maintenant, elles ont presque disparu, en fait.
On va reparler dans la deuxième partie de la table ronde avec le projet, justement, qui a été mené avec IWG et le groupe Cedadi, hein, qui est l'opérateur aujourd'hui et qui a la franchise de Régus, notamment. Alors, justement, on va parler de l'activité, justement. Ici, on est sur un terrain extrêmement intéressant au niveau de l'activité économique. Moi, je me suis baladé un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup de PME, TPE, PME. Aujourd'hui, 62% de l'emploi national est possédé et maîtrisé par des PME. Est-ce qu'on n'a pas ici, vous savez bien, Olivier Chapelle, un peu une ville emblématique, justement, du reflet de ce talent français de la création d'entreprises et de l'entrepreneuriat?
Exactement.
Vous les accompagnez au quotidien?
On a énormément de PME et de PMI avec, encore une fois, des beaux savoir-faire, des chefs d'entreprise qui sont très dynamiques et qui sont, pour reprendre la suite des propos de Grégory, qui sont décomplexés par rapport à, effectivement, leur situation géographique, parce qu'ils avaient même été invités à inventer le Made in Auvergne, où il y a certains produits qui partaient avec des gros Made in Auvergne collés dessus. Donc aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui vont de l'avant, qui sont décomplexés par rapport à la région dans laquelle, effectivement, ils produisent. plus effectivement on bénéficie toujours du rayonnement international de Michelin, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de PMI et de PME qui rayonnent à travers le monde entier.
C'est très clair. Et voilà, il nous reste 3 minutes pour conclure. J'aimerais qu'on ait une touche un peu, vision un peu, alors moi j'aime bien parce que je le fais souvent dans les émissions, une touche un peu holistique et agréable pour finir sur une note positive, et Dieu sait qu'en ce moment, on en a quand même bien besoin. On parle beaucoup, effectivement, de difficultés sur les politiques publiques d'aménagement, de territoire et autres. Et pourtant, on voit que cette France a un incroyable talent quand on voit des villes comme la vôtre, Grégory Bernard. Et là, c'est une réalité. Et là, on est plus dans la réalité que dans les incantations qu'on a parfois dans les cercles un peu jacobins de Paris, où on centralise un petit peu tout. Et je trouve que ça ferait du bien à nos politiques de venir ici voir les choses très concrètement. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Grégory. Vous êtes, vous, Éric Cornet, l'illustration parfaite, justement, de cet caractère français sur la pierre, l'emblématique. Et je voudrais juste rappeler une chose. En 1789, on a un slogan qui s'appelle « Liberté, égalité et propriété ». Et 4 ans après, ça devient « Fraternité ». Donc, le droit de propriété est une création française. Et nous sommes attachés à la pierre. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous nous disiez, voilà, face cam, pourquoi il faut venir ici à Clermont-Ferrand. Ici, venir travailler, avoir un poste de travail chez Régus, s'installer dans cette formidable région. Qu'est-ce qui fait, voilà, en quelques mots, que cette ville, alors vous, vous êtes Clermontois, en plus vous êtes du cru, pourrait attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux arrivants?
Je pense que Grégory l'a expliqué tout à l'heure, on est dans une région où il y a tout autour de la ville plein de choses à faire et à 3 minutes. On est proche de tout, on a le matin, tout le monde se plaint s'il y a un petit peu de bouchon, mais il n'y en a pas du tout.
Surtout si on compare avec Paris.
Voilà, je veux dire, l'avantage, c'est la qualité de vie chez nous. Voilà.
C'est la qualité de vie, oui. Le bien-être.
Le bien-être, ouais. De pouvoir se dépayser en 3 minutes. On est au travail, 5 minutes après, on peut être au milieu de n'importe quelle forêt, n'importe quel, au bord d'un lac.
On peut créer une entreprise, on peut trouver de l'emploi et on peut avoir des loisirs adaptés, des loisirs nature qui font beaucoup de bien. Merci beaucoup Éric Cornet. Je rappelle que vous êtes le patron des Pures Promotions. Olivier Chapelle, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, envoyer comme signal pour justement... Alors déjà, si vous venez vous installer dans la région, vous voulez vous lancer, vous pouvez déjà prendre un poste chez Régus pour vous installer. Ça c'est déjà une bonne chose. Mais quel signal vous souhaiteriez envoyer justement à ceux qui nous écoutent pour mettre en avant le bassin d'activité économique de cette formidable région?
Les différentes opportunités immobilières qui existent. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, sur le cadre de vie, sur les équipements sportifs et culturels de la ville, sur tout l'enthousiasme qu'on retrouve autour des stades de rugby ou de foot le dimanche à Clermont. Avec des gens finalement qui aujourd'hui ont pris pleine conscience de la qualité et du cadre de vie dans lequel ils évoluent, dans lequel ils travaillent aujourd'hui. Et pour reprendre une expression qui est certainement empruntée très souvent, il fait bon vivre à Clermont. Et c'est vrai qu'il y a des belles personnes, il y a beaucoup de dynamisme dans cette ville, il y a des gens entreprenants, il y a une belle qualité de vie.
Merci beaucoup. Je rappelle, Olivier Chapelle, que vous êtes directeur pour CBR et l'Atrium ici à Clermont-Ferrand. Alors, j'allais dire que l'arverne le plus célèbre au monde, c'est vers Saint-Gétorix, bien évidemment. Je ne pouvais pas la louper, celle-ci. Et c'est vous qui ferez la conclusion avec moi, Grégory Bernard. Je rappelle que vous êtes adjoint à l'urbanisme à la mairie de Clermont. C'est vrai que vous avez un très beau territoire. On sent toute la passion qui vous anime, d'ailleurs. Je pense que quand on fait de la politique, on a intérêt à être un peu passionné quand même, c'est clair.
C'est une façon de défendre son territoire.
Oui, justement. Je voudrais vous laisser cette conclusion. Qu'est-ce qui, vous adressez à tous ceux qui nous écoutent, qualifierait effectivement cette attractivité, l'amour que vous avez pour votre bassin d'activité, pour votre ville et votre territoire?
Moi, je pense qu'on concentre en fait toutes les potentialités du 21e siècle, en fait. C'est-à-dire que si j'essaye d'élargir la question, où est-ce que le développement économique, où est-ce que le développement humain va se faire au 21e siècle, et dans quel cadre, en fait, et avec les enjeux, justement, qui sont les enjeux de transition écologique, énergétique, etc. Je crois qu'ici, on a beaucoup d'ingrédients qui font qu'on peut être très optimiste sur notre avenir. Là où on voit que de très grandes métropoles deviennent un peu repoussantes, que des villes plus modestes sont quand même dans des formes de déclin industriels ou économiques qui sont préoccupants, y compris parce qu'il y a eu sûrement des abandons de politique d'aménagement du territoire. Mais ici, on est vraiment dans cette strate de grandes villes ou de petites métropoles, si vous voulez, qui croisent plein de choses. C'est-à-dire qu'on a toutes les fonctions des grandes villes. 50 000 étudiants, des chercheurs, la vitalité culturelle, sportive, les commerces, les loisirs. On a en plus ce cadre paysager et naturel incroyable, avec des pratiques sportives de type de pleine nature, etc., que tout le monde ne peut pas vraiment offrir non plus. Et en même temps, si vous voulez, on n'a pas les problèmes des trop grandes villes. On est en train de changer de modèle de transport en commun. Donc oui, il y a des bouchons en ce moment à Clermont. Et oui, c'est un peu compliqué pour l'automobiliste en général. Mais dans la ville de demain, on se déplacera beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Et avec certainement d'autres moyens que l'automobile. Le potentiel de nature en ville est énorme. Et donc on fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Tous nos aménagements publics prévoient des parts de végétalisation très importantes, etc. Donc ça peut être une espèce de modèle, si vous voulez, de ville du 21e siècle. En transition, on ne sera pas tout seul, il y en a d'autres. Mais quelque part, on a ces qualités-là.
C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, Grégory Bernard. Je rappelle que vous êtes adjoint à maire ici à l'urbanisme. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On va enchaîner avec la deuxième partie justement de cette table ronde et aussi ici présent à Clermont-Ferrand. On va profiter un peu de ce passage pour justement parler de ce projet d'entreprise avec notamment les deux groupes qui se sont alliés justement avec le groupe Cédalit, qui est un groupe régional, et le groupe IWG, qui est un groupe multinational. On se retrouve tout de suite après ça.
Inauguration du centre de coworking Regus à Clermont-Ferrand, jeudi 11 mai 2023 sur Cowork, la radio et Radio Immo.